Content de vous voir et bénir le Seigneur de ce que nous pouvons encore être devant sa face, comme on l'a chanté. Hein. D'une part pour le louer, mais aussi pour être encouragés, pour nous encourager les uns les autres dans le chemin. Ici ce matin, de ma bouche et au nom du Seigneur, il y a quelques exhortations qui sortent. Sachez que l'exhortation s'adresse premièrement à moi. Donc que personne ne se sente visé en particulier, et si c'est le cas, que ce soit le Saint-Esprit qui agisse dans nos vies, comme on vient de le chanter, « Te ressembler, Jésus ». Il y a quelques semaines déjà, au début de la nouvelle année, nous avons souligné toute la tendresse du serviteur de l'Éternel, dont le nom est noté dans les évangiles, à savoir Jésus-Christ. Toute la tendresse, toute la miséricorde, toute la patience, toute la fidélité de ce serviteur de l'Éternel, malgré l'état de faiblesse, de misère dans laquelle l'homme se trouve. Deux textes dans la parole de Dieu mentionnent les caractéristiques de ce serviteur parfait, mais aussi décrivent par deux images l'état moral et spirituel de l'homme. Les deux textes se trouvent d'une part dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, au chapitre 42, ainsi que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12. Et les deux textes coïncident l'un avec l'autre. Je ne me rappelle plus, je pense avoir lu avec vous dans l'Évangile de Matthieu il y a quelques semaines. Je vous invite donc de lire dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42, et nous lirons les quelques premiers versets, texte qui a déjà été lu, voici quelques semaines, et qui retracera les deux images pour parler de ce que nous sommes. Ésaïe, chapitre 42, et je lis à partir du verset premier. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, le bien-aimé de Dieu, celui pour lequel le ciel s'est ouvert à plusieurs reprises pour attester lorsqu'il était ici-bas sur cette terre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. » Et nous poursuivons la lecture. « Je soutiens mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas sa voix, il ne la fera pas entendre dans la rue. » Le verset 3 que nous allons souligner, il ne brisera point le roseau, autrement dit le feutu de paille, ce qui est fragile, ce qui est froissé. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Il manifestera la justice avec vérité jusqu'à ce qu'il ait fait droit. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il ne se lassera pas, il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Et les îles s'attendront à sa loi, ou dans l'évangile de Matthieu, et les nations espéreront en son nom. La fin de la lecture. Voici quelques semaines, nous nous sommes arrêtés sur cette image reprise dans le verset 3 concernant le roseau. Et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, sinon que le roseau froissé, courbé, et tel que nous sommes parfois courbés par les circonstances de la vie, nous ratons le projet, le but pour lequel nous avons été créés, et Dieu, dans sa grâce, par le secours de sa parole et de son esprit, veut atteindre quand même son projet, et nous nous sommes rappelés les différentes utilisations que l'on pouvait faire avec le roseau, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ont oublié, et nous sommes sans doute plusieurs. Je rappelle que ce roseau pouvait être utilisé dans l'écriture, dans la musique, comme tuteur, comme canne à pêche, etc. Et Dieu voulait que nous ramener dans ce projet avec un roseau qui, de prime abord, en apparence, était inutilisable. Également un roseau aromatique dont le parfum est utilisé dans le sanctuaire de Dieu. La deuxième image que nous voulons aborder maintenant, c'est concernant la mèche. J'ai allumé une bougie. Elle lume devant nous. Une bougie qui est là pour éclairer. Et quand elle éclaire, l'obscurité est chassée. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Si cette bougie arrêtait de lumer, de s'éclairer, l'obscurité réapparaîtrait. Vous allez me dire, une bougie, quand on est dans une grande pièce obscure, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand dans une église, il y a plusieurs bougies qui s'allument, alors là, ça éclaire davantage. D'où la nécessité que toutes les mèches qui brûlent viennent ensemble pour brûler du témoignage de Dieu. La bougie ou la mèche sert aussi à communiquer une certaine chaleur. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais n'empêche, quand on met ses mains dessus, et puis je vous demanderai d'être quand même prudent si vous voulez laisser votre main sur la mèche, telle qu'elle est allumée, ça risque de se voir avec des cloques. Elle communique une certaine chaleur. La chaleur de la paix, la chaleur de la joie, la chaleur de l'amour. Elle donne de l'espérance parce que l'obscurité disparaît. Là aussi, une seule mèche, ça ne communique pas beaucoup de chaleur. Mais quand toutes les mèches se rassemblent, alors là, on est bien dans la chaleur de la communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a des mèches, des bougies qui sont parfumées. Et voilà que ça sert aussi à étouffer les mauvaises odeurs et à parfumer un lieu dans lequel la bougie est en train de brûler. À certaines occasions, en particulier lors de mariages, voire de naissances ou d'événements heureux d'anniversaire et autres, il ne faut pas grande parole pour découvrir dans les yeux des futurs mariés, dans les yeux des parents face à leur nouveau bébé, dans les yeux d'un événement heureux, il faut pas beaucoup de paroles pour discerner que ça pétille, les yeux pétillent, ils sont amoureux. C'est évident. Et même si le petit gamin ou la petite gamine fait des bêtises, les parents, après la confession, pardonnent et restent toujours amoureux de leurs petits. Ça scintille, ça brille, ça chauffe. Mais quelle détresse quand l'une des deux parties arrête de scintiller. Quelle détresse quand, plutôt que de briller d'un éclat pur sans vaciller, une des bougies est en train de fumer. Imaginons quelle est la détresse du Seigneur Jésus lorsqu'il regarde l'enfant de son Père, racheté à grand prix, au prix de son sang précieux, qu'il aime, à qui il dit « Je suis amoureux de toi », et voir de l'enfant de Dieu la lumière vaciller, au point que, plutôt de continuer à briller, elle fume. Si entre les hommes, il y a de la souffrance, avec le Père, la souffrance est d'autant plus grande parce qu'il avertit ses disciples que dans la fin des temps, à cause que l'iniquité du plus grand nombre sera grande, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais nous avons affaire à un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est lent à la colère. Et parce qu'il use de bonté encore aujourd'hui dans sa grâce, il a des projets encore merveilleux, même si la mèche que je suis est en train de fumer. Une mèche presque consumée, qui n'éclaire presque plus, où l'obscurité prend à nouveau le dessus, où la flamme n'est plus présente, où le bout de la mèche que je suis est encore un peu rougeâtre. Il faut peu pour que la mèche s'éteigne complètement. Le souffle d'un enfant, fini. Les deux doigts qui pincent, la mèche fumante, s'est éteint complètement. La mèche fume. Elle dégage une odeur désagréable. On est loin de ce que l'apôtre Paul écrivait à l'épître de Philippe en disant « Bien-aimés, il faut que vous brilliez au milieu d'une génération perverse et corrompue, comme on est loin de briller quand une telle situation morale et spirituelle arrive dans notre vie. Et si c'est le cas dans ma vie, il est évident qu'une mèche fumante incommode, n'éclaire plus, pollue l'atmosphère. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de chercher la porte de secours pour quitter une atmosphère aussi polluante. Dans cet état d'apparence, le serviteur de Dieu a encore un projet. Il a encore un projet. Il est plein d'ambition pour nous. Même si c'est refroidi, il veut nous réchauffer et à nouveau nous faire briller. Je l'ai déjà fait la semaine passée, il y a 15 jours ou 3 semaines. Je vais essayer de retenter la même expérience. Avec les ventilateurs. Mais ce qui me rassure, c'est que les jeunes, avec leurs parents, ont essayé. Et il semblerait que ça a fonctionné. Hein? Oui. Donc on va essayer quoi? Si ça ne marche pas, ce n'est que de la physique. Parce qu'avec Dieu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le Seigneur Jésus, lui, la lumière du monde, vient de me toucher par son esprit et sa parole, vient de me toucher, me communiquer et de me dire, toi aussi, tu es la lumière du monde. Oh là, je vais me brûler. Ah oui, oui. Pourquoi vous ne me disiez pas que j'allais me brûler? Voilà. Je vais essayer. Hein. Ça ne marchera pas. Non. Ça ne marchera pas. Non. Ah. Voilà. Normalement, s'il n'y avait pas les ventilateurs, à 30 cm, je peux réallumer, je ne sais pas par quel principe, mais je mets la allumette ici. Et si je la mets dans le faisceau de la fumée, il y a ce contact qui fait que la bougie se réallume. Ici, vous avez pu le voir, à votre art de satisfaction, vous admettrez que j'ai réussi, quoi. Hein? Oui, ça va, ça va. Avec Dieu, ça réussit toujours. Quand ma mèche spirituellement et moralement est en train de fumer, les hommes auraient envie de piétiner cette mèche, de l'écraser, dire c'est tout toi, on en a fini avec toi. Mais pas avec le serviteur de l'Éternel. Quand on vient se placer dans sa présence, sous son regard, il me rallume. Mais il faut se placer sous lui, devant sa parole. Laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie. Et le miracle s'opère. Il n'en a pas fini avec nous. Ah. C'est beau, hein? C'est beau. C'est encourageant, hein? Je lis, je l'ai noté sur mes feuilles, Jésus disait, bien sûr il le dit dans Jean, mais ici, juste après les Béatitudes, ayant dit, vous êtes le sel de la terre, Jésus dira, vous aussi vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si Jésus parlait du disciple, permettez que j'extrapole une ville, c'est beaucoup plus qu'une seule personne. C'est plusieurs personnes qui sont rassemblées. C'est plusieurs enfants de Dieu qui sont rassemblés en un lieu, qui sont là sur la montagne de Dieu, éclairés et réchauffés par sa présence. Et ça doit se voir. Il dit, une ville située sur une montagne, c'est pas caché. C'est pas caché. Le monde va voir ça. Je n'allume pas, on n'allume pas une bougie pour la mettre sous le boisseau. bien-aimé, le serviteur parfait, même si la mèche fume, il n'est pas là avec un étouffoir. Non, il est là pour réchauffer, rallumer la mèche qui fume encore et lui donner de la vigueur, de la chaleur, de la lumière. Et quand cette mèche a repris vigueur, où la met-il, selon Matthieu? Il la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Ainsi, les hommes voient par cette lumière les bonnes œuvres que Dieu produit au travers de nous, qu'il a préparées pour nous, dans le but que les hommes eux-mêmes, voyant Dieu agir au travers de nous, que la lumière de Christ brille au travers de nous, que nous le reflétons, et un seul but, de glorifier le Père qui est dans les cieux. À quoi sert, bien-aimé, de dire que j'aime Dieu si j'aime pas mon prochain? N'aimez pas en parole, mais en acte. Et je notais ceci dans mes feuilles, une vie qui reflète Jésus-Christ, une mèche qui brûle de Jésus-Christ, une mèche qui illumine de la lumière de Jésus-Christ, même si c'est un discours muet, parle beaucoup plus qu'un long discours avec des paroles. Il doit y avoir concordance entre nos attitudes et ce que nous disons. Sachez une chose, c'est que dans ce temps de la grâce dans lequel nous vivons, notre Seigneur Jésus n'a pas d'étouffoir. Il n'a pas d'étouffoir. Il est là pour animer et rallumer. J'ouvre une petite parenthèse, j'espère pas être trop long. Dans le tabernacle du temps du peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, et ensuite arrivés dans le pays promis avec le temple, il y avait dans ce tabernacle plusieurs lieux, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et dans ce lieu saint, il y avait trois objets. Il y avait l'autel d'or, l'autel des parfums, il y avait aussi la table des propositions avec du pain, et il y avait aussi un chandelier. Ce chandelier qui devait briller, être allumé nuit et jour. C'est le contraire qu'on voit du temps de Samuel, hein, quand il était petit. Je ferme la parenthèse. Pour que le chandelier brille jour et nuit, il fallait que le souverain sacrificateur, Aaron, du temps du peuple d'Israël dans le désert, apporte de l'huile, c'est normal. Mais comme la mèche était un fil de lin, elle se carbonisait. Il y avait donc, de la part de l'Éternel, lors de la fabrication du chandelier qui était fait d'eau en une seule pièce, battue, il y avait deux instruments qui étaient construits pour entretenir la mèche, pour qu'elle brille. Il y avait ce que la Bible appelle, selon les versions, soit des mouchettes, soit des pincettes. Les mouchettes ou les pincettes avaient pour but que Aaron, souverain sacrificateur, vienne couper la mèche qui fumait et permettre ainsi à la lumière de reprendre vigueur. Et ce carbone qui empoisonnait l'atmosphère, qui empoisonnait cette lumière d'être vivante, était alors placé dans ce que l'on appelle le vase à cendres, qui était alors déposé à l'extérieur du tabernacle. Bien-aimés, si nous voulons briller d'un éclat pur qui reflète la personne du Seigneur Jésus, il faut accepter que le Saint-Esprit nous remplisse continuellement, dont le symbole c'est l'huile, et il faut accepter que la parole de Dieu sous l'action du Saint-Esprit fasse son œuvre d'émonder, de retirer ce qui empêche la mèche de briller d'un éclat pur. Ça fait mal. C'est douloureux. Ça réclame d'être humble devant Dieu. Mais c'est une situation qui est heureuse pour nous, pour chaque enfant de Dieu, et qui est à la gloire du Seigneur Jésus, parce qu'alors, nous serons dans ce monde des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Je voudrais venir avec vous, si vous le voulez, parler du chandelier, de la mèche qui brûle dans un texte qui se retrouve dans le dernier livre de la Bible pour parler de l'église d'Éphèse. Et je vous propose de faire la lecture de Apocalypse, chapitre 2. Si nous avons parlé de nous-mêmes en tant que mèche, l'Église est considérée comme un chandelier ici, et nous allons retirer quelques instructions pour nous, quelques exhortations pour nous, quelques encouragements. Et je lis les trois premiers versets dans un premier temps. Apocalypse chapitre 2, les trois premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui, donc le Seigneur Jésus glorifié. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il faudrait relire le premier chapitre pour voir qu'il s'agit de cette église mentionnée dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Verset 2. Je connais, autrement dit, le Seigneur glorifié, du haut du ciel, par l'entremise de Jean, fait dire à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés des menteurs. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Et je sais que tu ne t'es pas lassé. Arrêtons là la lecture. Nous reviendrons plus tard sur le texte de la parole de Dieu. Je sais. Je vois que j'ai perdu une page. Bon. Ah non, elle est là. J'écris grand, en grand caractère, pour avoir quelques notes. Le Seigneur Jésus, dans un premier temps, en regardant l'Église vivre, met l'accent, met en évidence ce qui est positif en son sein. Une Église qui est forte dans ses œuvres. une église dont l'œuvre sociale est aussi forte. Forte aussi dans ses offrandes, sans doute. Elle a à cœur l'évangélisation. Elle a à cœur de visiter les orphelins, les veufs, les malades. Elle fait les bonnes actions que le Seigneur a préparées pour elle. Il y a un groupe de louanges qui est formidable. C'est bien. Ils entretiennent bien le local dans lequel l'Église se réunit. Ça ne sent pas mauvais. Une personne a soin des WC, d'y mettre les rouleaux de WC en suffisance. C'est bien. Ils organisent des agapes. C'est bien. Ils s'occupent des enfants. Et les enseigne, c'est bien. Ils occupent aussi les personnes âgées, c'est bien. Ils s'occupent des scouts, c'est bien. Ils prêchent la parole de Dieu, c'est bien. Ils ont des réunions de prière, c'est bien. Ils persévèrent dans la communion fraternelle, c'est bien. Ce que vous entendez, le Seigneur dit, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Éphèse ? C'est bien. Il dit, il y a peut-être des menteurs parmi vous, et vous savez les reprendre. C'est bien. Il y en a qui amènent peut-être un évangile qui n'est pas le mien, et vous savez les reprendre. C'est bien. Vous soutenez les missionnaires, les étudiants qui sont... à l'école, c'est bien. Vous chantez, bien. Vous priez, c'est bien. Vous écoutez la parole de Dieu, c'est bien. Quel beau tableau! Faut-il espérer meilleur? On continue la lecture. Je lis au verset 4. Mais, oh là là, ça commence mal. Hein? Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et nous continuons verset 5. Souviens-toi. D'où tu es tombé, repens-toi, pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, si tu ne te repens pas. Ce texte dit pour moi quatre choses. La première, après avoir dit que tout était bien, en apparence, le Seigneur dit, là j'ai quelque chose contre toi. Contre. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et à cela, je veux aussi exhorter, ou tout au moins rectifier certaines paroles qui véhiculent. Certains disent que l'Église d'Éphèse avait perdu son premier amour. La parole ne dit pas cela. Elle a abandonné. L'abandon est un acte volontaire. On abandonne un chien sur l'autoroute volontairement pour se prendre du plaisir en vacances. On on abandonne une personne âgée parce qu'elle est nuisible dans la société. Mais perdre signifie égarer involontairement. Je me rappelle un jour avoir perdu ma petite fille, alors que je lui tenais la main, d'avoir perdu ma petite fille dans un supermarché. Et je vous assure que quand on s'en est rendu compte, même si l'acte était involontaire, on s'est vite empressé d'aller à sa recherche. Il n'y a pas longtemps, à la banque, j'ai vu une dame d'un certain âge avoir perdu sa carte bancaire. C'était involontaire de sa part, mais je vous assure qu'il s'est fallu de quelques secondes pour qu'elle s'en rende compte. Heureusement, la carte était à ses pieds. Ainsi, la parole de Dieu nous dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. » C'est volontaire. Tu as abandonné ton premier amour. C'est comme le Seigneur Jésus me dit à moi et à nous, tu n'es plus amoureux de moi comme au premier jour. Moi, je suis le même. Moi, je suis toujours amoureux de toi. Mais je ne vois plus l'étincelle. Tu sais, en apparence, tout est bon. Tout est correct. Mais moi qui sonde les cœurs, je peux discerner. Où en est ton amour pour moi? Les œuvres que tu fais sont-elles encore animées par le zèle du premier amour? Sont-elles encore animées avec la joie du premier amour? Sont-elles encore avec la ferveur du premier amour? Et après avoir fait cette analyse, le Seigneur, deuxième étape, nous dit « Souviens-toi, souviens-toi. » Je sais que regarder en arrière peut devenir une entrave à la marche en avant. Je le sais. Et pourtant, à plusieurs reprises, nous sommes invités à nous souvenir, à mettre le rétroviseur pour regarder ce qui s'est passé en arrière. Je ne vais pas dire qu'il faut constamment voir cela, mais quand nous participons à la Sainte Cène, c'est le souvenir d'un amour immense que nous nous rappelons en rompant le pain et en buvant à la coupe. Mais parfois, il est nécessaire de regarder le chemin parcouru et évaluer ce qui a été abandonné. De façon à ce que nous soyons, moi en particulier, si c'est le cas, être comme le fils prodigue, après m'être souvenu des bénédictions de la maison du Père, je me dise, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché. Et ça, c'est le début de la repentance, c'est le moment où le Seigneur réanime notre amour. Et si on veut voir, moi mon amour est impeccable, je vous invite à lire l'hymne à l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, et essayer de comparer mon amour pour le Seigneur à ce que l'apôtre décrit comme caractéristique de l'amour, tel qu'il doit être. La plupart des prédications jusqu'à présent que j'ai entendues sur ce sujet insistait sur le fait que nous n'aimons plus le Seigneur Jésus comme nous l'aimions au départ. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est juste. Je dois me laisser sonder par la parole de Dieu et analyser que mon amour doit être constamment réchauffé. Et redis comme David autrefois, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, et voici, je suis sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'éternité. Mais voilà que, il est dit ici, c'est le Seigneur qui dit, j'ai contre toi, et puis, souviens-toi. Autrement dit, regarde en arrière. Et quand je me rends compte que ça ne va pas dans mon cœur, vis-à-vis de Dieu, que je ne brille plus de la même intensité, j'ai beau regarder en arrière, je me culpabilise et je ne vois pas ce qu'il y a. Je ne vois pas ce qui ne va plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Où trouver la solution de ce qui ne va plus en moi? Où est-ce que j'ai glissé? Où est-ce que j'ai chuté? Et j'essaie, tant bien que mal, de rechercher un lieu avec une atmosphère d'amour qui va me remplir momentanément, qui va me réchauffer momentanément, mais est-ce que ça va durer? Si les circonstances de la vie font que, comme le roseau, je plie et comme il y a le vent qui souffle et qui risque de m'éteindre. Et dès lors, moi, je cherche constamment en moi les éléments propices pour réveiller la vigueur de mes sentiments pour Dieu. Mais voilà, j'avoue devant Dieu que je suis en panne. Et je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Alors, je me pose mille et une questions. Qu'est-ce qui a pu changer dans ma vie pour recevoir de mon Seigneur un tel reproche? Plein de questions sont là dans ma tête. Et plutôt que de rechercher, de continuer, de m'introspecter, de rechercher en moi, ce qui est juste, hein, ne faudrait-il pas rechercher ailleurs? Je vous lis un texte de la parole de Dieu qui engage ma volonté. Pour nous, dit l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est là, bien-aimé, que se trouve le premier amour. Ce n'est pas en moi. Et s'il est en moi, c'est parce que le Saint-Esprit a déversé ce premier amour qui vient de Dieu, qui est divin. Il a déversé ce premier amour en moi. Ainsi, ce premier amour qui est de Dieu n'est pas la cause, mais est le résultat de son amour en moi. Ainsi, nous devons nous souvenir d'où nous sommes tombés afin de retrouver ce moment précis dans nos vies où le premier amour de Dieu, je l'ai saisi et je veux en vivre encore aujourd'hui. Et pour cela, j'ai besoin chaque jour de venir me frotter à cet amour, de me rappeler cet amour. Et je me pose la question, quand avons-nous cessé ces rendez-vous divins avec Dieu, dans ma vie de chaque jour? Quand avons-nous cessé de nous rencontrer ensemble dans la communion fraternelle pour écouter la parole de Dieu et de nous frotter à l'amour divin? La vraie repentance est le chemin de la restauration. Si il n'y a pas de repentance, c'est sévère. C'est sévère. On l'a lu. C'est le Seigneur qui dit « J'ôterai le chandelier de sa place. » Plus de remède. La mèche fume et elle s'éteint. Dieu ôte le chandelier parce qu'il n'y a pas de repentance. Que le Seigneur me garde, nous garde, de nous satisfaire de la médiocrité d'un amour superficiel, mais de constamment nous réchauffer à son amour, pour que cette flamme brille. Et je termine, parce que l'heure est là, par le dernier verset qui est un appel, verset 7, que celui qui a des oreilles, s'il a parlé à l'Église, il parle maintenant à chaque croyant individuellement. Et il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous sommes bien-aimés grâce à celui qui est victorieux, plus que vainqueur avec lui. Et nous pouvons être réchauffés par sa présence. En conclusion, j'aurais voulu parler de plusieurs personnes dans le Nouveau Testament qui ont été réchauffées malgré leur détresse, qui ont été réchauffées par cet amour divin. J'en cite un, Pierre, un Seigneur. Ce que tu dis là, ça ne va pas t'arriver. Moi, je suis plus fort que les autres. Et pourtant, devant une femme qui insiste, « Tiens, tu n'étais pas avec lui, toi. » Il renie son Seigneur. Il faut le jour de la résurrection pour que le Seigneur l'interpelle sur le lac de Génézareth, une semaine après la résurrection. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Plus que, comme tu l'as dit. Alors, je crois, bien-aimé, que le Seigneur s'adresse à moi en particulier, à tous ceux qui sont comme des roseaux froissés, qui ont cessé de briller et qui s'en rendent compte, qui se rendent compte de la médiocrité de leur vie à briller de l'étincelle de Jésus-Christ. Je crois que venir dans la présence du Seigneur est source de bénédiction et d'être échauffé, d'être réallumé par le Saint-Esprit. Je crois que nous devons faire confiance à celui qui est le maître et qui ne va pas étouffer la mèche qui fume encore. Et dès lors, puisque nous avons chanté « Te ressembler Jésus », soyons aussi à l'exemple du Seigneur Jésus, de ceux qui allons encourager, ceux qui, dont la mèche est en train de fumer et qu'on ne va pas être à notre tour en train de l'écraser. T'es inutile, toi. Mais au contraire, être de ceux qui allons, au nom du Seigneur, être des témoins de sa grâce et réchauffer le cœur. Je termine par deux versets bibliques, je cite par cœur. À une femme qui avait été délivrée de ses péchés, d'un grand nombre de péchés qui se trouve dans la maison de Simon. Simon qui fait des reproches à Jésus. Tiens, tu ne sais pas quelle est celle qui est en train de oindre tes pieds. Tu ne la connais pas. Et Jésus de dire à Simon, Simon, elle oint mes pieds de ses larmes. Elle les essuie avec ses cheveux. Toi, normalement, quand on invite quelqu'un, tu dois me donner un bassin pour me laver les pieds. Et Jésus de dire, à ton avis, il raconte une histoire hein, suite à cela, avec quelqu'un qui doit beaucoup de sous et un qui n'en doit pas beaucoup. Et Jésus met la comparaison devant Simon, tiens, quelle est entre ces deux débiteurs la personne qui va aimer le plus? Ah, c'est celle qui a beaucoup été, à qui on a remis la dette. Et Jésus de dire, tu vois cette femme, elle m'aime beaucoup parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Bien-aimé, rappelons-nous le prix de notre pardon. Elle est source de repentance, elle est source de bénédiction, elle est source de pouvoir nous réchauffer. N'abandonnons pas, n'oublions pas ce fait immense de notre pardon. Et je termine par l'autre exemple. Il y en a beaucoup, l'autre exemple. On se rappelle des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont là en train de fouiller Jérusalem. Un personnage les accoste. Ils ne découvrent pas que c'est le Seigneur Jésus. Et ils sont presque en train de lui faire de reproches. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tel seul homme pas le savoir. Et Jésus prend la parole qui parle de lui. Et commençant par Moïse, commençant par les prophètes, commençant par cette parole, il leur expliqua ce qui le concernait. Et les disciples invitent ce personnage dont ils n'ont pas encore découvert que c'est le Seigneur Jésus. Ils l'invitent à rentrer dans la maison où ils allaient. Et là, quand ils rompent le pain, « Ah, mais c'est le Seigneur !» Que disent-ils ? « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures. » Bien-aimés, si nous voulons briller d'un amour sincère, avec un zèle véritable, avec joie, si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons briller dans ce monde de la lumière de Jésus-Christ, alors que ceci soit le livre de notre chevet, que nous la lisions, parce qu'elle nous parle, elle nous communique les vérités concernant celui qui est la lumière, et nous serons sa lumière à lui dans ce monde. Nous brillerons comme des flambeaux dans un monde pervers et corrompu. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à être de ces chandeliers, à des sèches. Le Seigneur n'en a pas fini, je vais dire, avec toi, ni avec moi. Tu as un sentiment peu flatteur de toi. Jésus veut te réchauffer. Il l'a dit, et j'y crois.